Vous êtes sur RTL.
Yeah. RTL Matin,
Yves Calvi.
RTL 7h44, Yves Calvi, vous revenez sur la fuite de Carlos Ghosn avec deux invités, la spécialiste du Japon Valérie Niquet et l'expert du renseignement Jean Guinel.
Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle Asie, de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du Japon en 100 questions qui sort très prochainement aux éditions Talendier. Je salue également Jean Guinel.
Bonjour.
Journaliste, spécialiste des questions militaires et de renseignement et auteur de l'histoire secrète de la DGSE paru aux éditions Robert Laffont. Vous êtes avec nous par téléphone, Jean, merci beaucoup. Depuis la Bretagne, c'est donc la surprise de cette fin d'année. C'est plus qu'une surprise, hein. Le départ du justiciable le plus surveillé du Japon, Carlos Ghosn, que l'on avait assigné à résidence dans l'attente de son procès en 2020. Mais alors, surprise, lundi soir, on apprend que l'homme d'affaires se trouve auprès des siens, chez sa belle-mère à Beyrouth. Et on apprend ce matin, par la chaîne japonaise NHK, qu'une perquisition est en cours au domicile de Carlos Ghosn à Tokyo. C'était prévisible? Vous êtes étonnée par cette annonce, Valérie Niquet?
Non, ça n'était pas prévisible, d'autant plus qu'il avait promis, alors les Japonais font preuve d'une grande innocence entre guillemets, parce qu'il répète beaucoup dans la presse, et ses avocats les premiers, qu'il avait promis, qu'il s'était engagé à ne pas partir, et c'est la raison pour laquelle, d'une manière très très exceptionnelle, on lui avait accordé cette libération et cette résidence surveillée, ce qui ne se fait quasiment jamais au Japon. Donc ça a été une surprise pour tout le monde, mais en y réfléchissant, effectivement, on y reviendra sans doute. Mais c'est vrai que sa situation en tant qu'accusé était extrêmement difficile et que sans doute il n'était pas du tout certain de pouvoir prouver son innocence comme il le proclamait depuis le temps qu'il avait été arrêté. Non pas tellement parce que ses accusations étaient à tort, mais parce que effectivement le dossier était sans doute beaucoup plus solide que ce qu'il répétait continuellement depuis sa résidence surveillée.
Alors ça, c'est sa situation à lui, mais je m'arrête un instant quand même sur la situation des autorités japonaises. Et comment expliquez-vous cette baisse d'attention des Japonais en cette période et concernant cet homme dont on parle dans le monde entier, qui était sous surveillance et dont on sait qu'il vivait, alors c'est le cas pour tous les accusés au Japon, mais qui vivait dans des conditions extrêmement restrictives et très difficiles jusque-là. Comment expliquez-vous les Japonais ont en quelque sorte baissé leur surveillance?
Alors d'abord, il y a la période de l'année, c'est la période du Nouvel An, qui est la fête la plus importante familiale au Japon et pendant laquelle à peu près tout s'arrête et qui est précédée par une période de voyage extrêmement agitée. Tout le monde est dans l'avion, dans les aéroports et tout, donc c'est une période qui est sans doute propice à des déplacements et effectivement à peut-être moins de personnel pour la surveillance.
Donc là, vous nous dites que les Japonais ne foutent rien pendant les fêtes alors que ce sont des gros travailleurs habituellement.
Exactement.
Et il y a une espèce de baisse de tension au sens premier du terme.
Tout à fait. Effectivement, au Nouvel An au Japon, pendant une semaine, pratiquement tout
s'arrête.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ouais. Comme d'ailleurs pendant toutes les fêtes où les Japonais travaillent beaucoup quand ils travaillent, mais quand c'est les périodes de congé, ils s'arrêtent vraiment. La deuxième chose, c'est que contrairement encore une fois à ce qu'on disait, sa surveillance n'était sans doute pas aussi forte et aussi terrible que ce qu'on disait. Il avait le droit de sortir, de quitter son domicile et de voyager dans tout le Japon pendant 72 heures continues, ce qui est quand même considérable. Tous les jours, il allait seul chez son avocat, il allait au restaurant seul. Il recevait sa sœur, sa cousine, qui elle-même portait apparemment des téléphones portables qui n'étaient pas contrôlés puisque ça n'était pas le sien. Et on est donc dans un véritable conflit culturel, là. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, au Japon, quand on a promis quelque chose, eh bien, on est censé le faire. Mm-hmm. Ailleurs, on se dit, il y a des opportunités, pourquoi ne pas en profiter?
C'est merveilleux ce que vous nous expliquez. Alors, je me tourne une première fois vers Jean Guinel. Jean Guinel, vous qui suivez ce type d'affaires et de longue date, on a une fuite quand même qui est, semble-t-il, minutieusement organisée. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les premières informations qu'on a recueillies sur le départ de Carlos Ghosn?
Je crois qu'elle est la première remarque, c'est qu'elle est tout à fait conforme à ce qu'on a pu déjà voir comme fuite inattendue. Je pense à celle des pilotes d'Air Cocaïne, oui, qui ont été exfiltrés en 2015 des Caraïbes. Et c'est un peu la même méthode, c'est-à-dire vous prenez des gens par surprise, vous utilisez des compétences réelles de spécialistes qui sont passés par les services spéciaux et vous réussissez au nez à la barbe des autorités à faire partir quelqu'un. Après, dans ce qui s'est passé au Japon, on ne sait pour l'instant quasiment rien. On a une ébauche de narration par la famille de Ghosn, mais enfin, elle mérite vraiment des confirmations par des sources indépendantes et par des enquêtes sur place.
Mais pardonnez-moi, on sait aujourd'hui qu'apparemment il est arrivé avec une carte d'identité libanaise et un passeport français à l'aéroport de Beyrouth. On ne lui avait pas retiré ses trois passeports, enfin français, libanais, brésilien, vous comprenez, c'est
genre de question. Ce que disent les Japonais, c'est que les trois passeports étaient chez ses avocats. Mais est-ce qu'il est passé par un aéroport où on l'a contrôlé? Est-ce qu'il a bénéficié de complicité locale? Tout s'achète partout dans le monde, oui. Donc, voire même de complicité politique par des entités de l'appareil d'État japonais. On n'en sait rien, franchement. Ne spéculons pas trop, attendons les semaines qui viennent et on en saura beaucoup plus.
Je retiens en tout cas ce que vous nous dites, c'est que tout s'achète partout dans le monde quand même, hein, quand on veut passer quelque part.
Oui, bien sûr, tout s'achète, évidemment, au Japon aussi.
Bon, est-ce que ça reste quand même à vos yeux une prouesse d'avoir échappé à cette résidence surveillée, où vous nous dites finalement on pouvait s'y attendre, ce qui était un petit peu finalement aussi l'analyse de Valérie Niquet il y a quelques instants quant à, on va dire, l'endormissement de fin d'année d'Oshogatsu de nos amis japonais?
Moi, j'observe que depuis qu'il a été arrêté, Carlos Ghosn a beaucoup protesté contre les conditions de sa qui lui étaient faites par la justice japonaise, mais il s'est soumis à tout. Donc, il a endormi la vigilance de la justice japonaise et des services qui étaient chargés de le surveiller. Et son évasion a été faite de manière, on pourrait presque dire, élégante, c'est-à-dire c'est par la ruse. Il a fait, quelle que soit la ruse qu'il a employée, si c'est le départ dans une caisse d'instruments de musique ou autre chose, ça ressemble aux ruses utilisées par les services spéciaux. Les Français et les autres font ça très bien. Les Anglais ont exfiltré un premier ministre syrien, excusé du peu, en 2012. Les Français, à la même époque, ont exfiltré un des cadres dirigeants du régime syrien qui s'appelle Mounaftlas, et ils l'ont fait partir avec les nageurs de combat d'une plage de Syrie. Vous avez, dans les années 80, ce que je trouve être l'une des opérations les plus solides, les services français qui ont fait partir d'Amérique du Sud à la demande du gouvernement français un dirigeant de gauche qui était emprisonné. Ils l'ont fait sortir, ils lui ont inoculé une petite maladie qui a contraint son départ pour l'hôpital, et de l'hôpital, ils l'ont fait partir à pied par la montagne.
Ce que vous nous racontez est fascinant, mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, vous citez des services qui sont en jeu, hein, des services spéciaux. Là, c'est une opération totalement privée qui a été en tout cas a priori menée, alors avec des moyens énormes qui sont ceux de Carlos Ghosn, on le comprend bien, mais voilà, avions comme personnel ont été a priori d'ordre privé.
Oui, bien sûr, a priori, pour l'instant, de ce qu'on en sait, c'est d'ordre privé. Simplement, les compétences qui ont été mises en œuvre ne sont pas les compétences d'une petite entreprise de rien du tout. C'est une grosse organisation qui a pu, alors, énormes moyens et très grosse organisation. Quelle est-elle? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, une grosse organisation a été mise en œuvre pour enlever Carlos Ghosn à la surveillance de ses geôliers.
Vous restez avec nous, on se tourne à nouveau vers Valérie Niquet. Valérie Niquet, est-ce que vous nous confirmez qu'au Japon, en l'absence du prévenu, le procès ne peut pas avoir lieu ?
Semble-t-il, effectivement, pour ce type d'accusation financière, le procès ne pourrait pas avoir lieu. Il y a encore au Japon Greg Kelly, qui était le bras droit de Carlos Ghosn et qui, lui, était reparti aux États-Unis pour raison de santé, qui est revenu au Japon comme lui demandaient les autorités japonaises. L'évasion, la fuite de Carlos Ghosn pose un énorme problème. C'est que les Japonais avaient cédé, entre guillemets, et relâché, Carlos Ghosn en résidence surveillée. Oui. Contrairement à ce qu'ils font d'habitude. La question, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, les procureurs au Japon disent, je vous l'avais bien dit, nous n'aurions jamais dû relâcher quelqu'un qui avait une telle capacité d'action et de tels moyens, puisqu'il abandonne sa caution, hein, donc qui est considérable. Il y a toute cette question-là qui est soulevée, et la question des amis japonais m'ont dit, ce qui nous gêne énormément, et ce qui est très dommageable, c'est qu'il nuit, non pas à lui-même, évidemment, mais d'une manière très égoïste, il nuit à tous ceux qui luttaient au Japon pour une réforme d'un système judiciaire qui a des caractéristiques assez particulières, il faut bien le reconnaître.
On n'aime pas perdre
même
la face.
Même s'il est réellement judiciaire.
Bien sûr, on n'aime pas perdre la face au Japon. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de traumatisme psychologique, notamment pour la justice japonaise ?
Alors le traumatisme, il vient du fait que le Japon réalise qu'il y a quand même de très grosses failles dans sa capacité de contrôle dans un monde globalisé. Le Japon est une île et il y a un esprit insulaire et un pays qui a longtemps été refermé sur lui-même et peu en contact avec le monde extérieur, que ce soit dans les côtés positifs ou les côtés surtout négatifs. Il y a très peu de crimes au Japon, le terrorisme est quasiment inexistant en dehors de cas extrêmement comme la secte Aum par exemple, dont on se souvient encore dans le métro à Tokyo il y a déjà oui. de nombreuses années. Donc le Japon n'est pas habitué à ce type de contrôle. Et ça n'est pas si difficile à mon avis. Je ne sais pas de quel aéroport il est parti, mais encore une fois, dans une situation de foule, avec sans doute un faux passeport, on dit tout le monde connaissait Ghosn, bien sûr, on le voyait souvent à la télévision, mais enfin, pour un Japonais, même aux frontières, qui n'est pas spécifiquement averti de la nécessité, comme on voit partout dans les postes de police au Japon, les photos des principaux ex-criminels de l'armée rouge des années 60-70 qui sont encore affichées. Pour quelqu'un de, entre guillemets, normal, la figure de Ghosn, et qui était peut-être même grimée, n'est pas absolument évidente à reconnaître. Encore une fois, dans une période où il y a énormément de passages et de trafic. Donc, on peut comprendre aussi comment les choses se sont faites, d'autant plus qu'encore une fois, il était totalement libre de se déplacer. Il y avait des caméras qui surveillaient sa sortie de maison. Il était soi-disant suivi, mais dans quelle mesure est-ce que c'était fait d'une manière très très intensive ? Effectivement, il avait sans doute aussi endormi les autorités.
Une perquisition est en cours, on le rappelle, donc à son domicile japonais. C'est l'information de ce matin. Merci infiniment à Jean Guinel, merci à Valérie Niquet de nous avoir donné ces éléments de compréhension de ce qui vient de se passer. C'est une affaire qui ne fait que débuter et nous allons largement y revenir, bien entendu, sur l'antenne d'RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour répondre à toutes vos questions. RTL.